RTV 95.7, Music & News, avec Marianne Attanchot.
Écoutez Music & News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 95.7.
Evelyne Delaplace, conseillère départementale du canton Dreux 1, maire de Vérandrouët.
Et Christophe Ledorven, président du conseil départemental, mais aussi conseiller départemental du canton Dreux 1. On vient faire une étape pour rencontrer la presse à l'occasion de ce bilan à mi-mandat pour le conseil départemental, un bilan à mi-mandat pour nous deux, et où nous allons à la rencontre évidemment des maires de notre canton, mais aussi des habitants. Sur le plan économique, on a connu au début de notre mandat une sortie de crise sanitaire qui a été extrêmement bénéfique pour notre département, pour notre territoire, avec une position géographique idéale et une attractivité naturelle en proximité évidemment de la région la plus peuplée et la plus riche de France, qui est l'Île-de-France, avec un véritable développement économique sur la partie nord de notre département, sur la vallée de l'Eure et sur le pays chartrain évidemment. Donc ça a été cette locomotive économique pour le reste du territoire. Dans un même temps, on a connu aussi sur le reste du territoire, notamment et particulièrement sur le Dunois, une nouvelle attractivité, notamment pour l'implantation d'industries. Et donc, on a aujourd'hui un territoire sur le bassin dunois en général qui est devenu attractif pour l'implantation de nouvelles entreprises ou l'agrandissement d'entreprises actuelles, déjà préexistantes, mais surtout l'arrivée de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. La conjoncture n'est plus la même aujourd'hui. Notre département reste malgré tout attractif, toujours du fait de sa proximité avec l'Île-de-France. Mais c'est vrai que le marché immobilier n'est plus celui qu'il était il y a quelques années. Et donc voilà, on subit en Eure-et-Loir, comme partout en France, un vrai ralentissement économique. Cette année, le budget qui a été voté, adopté à l'unanimité d'ailleurs, des trois groupes que compose le conseil départemental. Donc c'est un budget de sobriété et donc nous avons dû descendre nos investissements. Donc pour les routes pour 2025, enfin les infrastructures routières en général, c'est aux alentours de 32 millions d'euros. Depuis la loi NOTRe de 2015, nous n'avons plus de compétences économiques au conseil départemental. Mais évidemment, pour faire de l'économie, il ne suffit pas de faire de la promotion des zones d'activité, faut-il encore pouvoir y aller et en venir. Et donc évidemment qu'il faut des infrastructures routières qui soient adaptées à accueillir du trafic routier, notamment poids lourd, et faire en sorte aussi que les villages soient les moins impactés possible par du trafic de poids lourd. Il ne suffit pas de vouloir une attractivité économique sur l'ensemble du département, et puis de dire, ben non, tel village, c'est une réserve d'Indiens, on ne veut pas de camions. Ben non, en fait, la vérité, c'est qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans avoir des livraisons ou sans faire partir du matériel de ses ateliers. Sinon, on ne fait que des immeubles de bureaux. Et auquel cas, les immeubles de bureaux, ben, on voit ce que ça donne en région parisienne. Quand on transforme la façon de travailler avec notamment le télétravail et donc après du flex office, ça veut dire qu'on a des immeubles de bureaux qui sont aujourd'hui totalement désertés. Je lisais d'ailleurs il y a quelques jours chez vos confrères de la presse nationale qu'il y avait une proposition de loi qui était étudiée pour pouvoir transformer des immeubles de bureaux en région parisienne pour faire 90 000 logements. Vous imaginez un peu les surfaces qui ont été libérées de l'après-Covid.
Grâce au soutien du département, les communes ont les moyens d'investir pour faire aboutir leurs projets en faisant travailler des entreprises du territoire et donc créer de la richesse localement.
On a le deuxième réseau de routes départementales de France. Les champions de France, c'est le département de la Manche. Mais nous sommes deuxième, très peu derrière d'ailleurs, avec 7500 km de routes départementales. 7500 km. La moyenne des départements, c'est entre 2500 et 3000 km par département. Donc on est très très loin de la moyenne nationale. On est bien au-delà. Alors c'est historique, c'est le poids de l'histoire, c'est mon illustre prédécesseur Maurice Violette qui a fait goudronner tous les chemins pour que parte le plus vite possible le blé. Et donc voilà, c'est tout à fait historique et c'est lié à l'économie locale de l'époque, qui était l'agriculture en premier lieu, qui est toujours un élément important de notre économie locale, mais qui évidemment n'est plus le seul élément économique. Lorsqu'en 2021, on a fait le choix d'investir autant d'argent, c'était aussi pour rattraper un retard. Un retard sur l'entretien structurel de nos routes, mais aussi sur des projets d'ampleur, des projets de contournement. Je pense notamment au contournement de Châteauneuf, Châteauneuf-Antimeray, avec une première phase qui a déjà vu le jour, une deuxième qui est en préparation pour une réalisation sur les deux prochaines années. Et puis, puis d'autres, hein, des barreaux à Bue, par exemple, un petit barreau entre deux routes départementales qui a été créé pour désengorger notamment le trafic poids lourd, pour éviter que le trafic poids lourd passe à l'intérieur du centre-bourg. Comme aussi, et là c'est le projet le plus important, la déviation de Nogent-le-Roi, Coulon-Lormet, avec la création du plus grand viaduc d'Eure-et-Loire. Hein. Quelque chose qui a été vraiment pensé et qui a été pensé aussi pour préserver la biodiversité, parce que la vallée de l'Eure est assez remarquable de ce point de vue, donc il faut la traiter dignement, mais aussi dignement ne plus traverser avec les poids lourds, Nogent-le-Roi, Coulon et Lormet. Je vous rappelle quand même que ce soit cette déviation de Nogent-le-Roi ou celle de Châteauneuf, c'est aussi pour éviter que des piétons, lorsqu'ils sont sur le trottoir, se fassent happer par un poids lourd et passent sous le poids lourd. On a eu ces drames-là, tant à Châteauneuf-Antimeray qu'à Coulon, où à chaque fois, on a eu des drames avec soit une personne décédée, soit une personne très très handicapée à la sortie de l'accident. Donc c'est aussi ça qu'on essaie de résoudre. C'est pas un claquement de doigts, c'est un travail de très longue haleine. C'est beaucoup d'investissements, hein. Les coûts sont colossaux, hein, quand on fait des travaux publics. 40 millions d'euros, c'est quand même presque trois fois plus que les crédits que l'on consacrait sous le début du mandat précédent.
Concernant ce projet de RN154, mais aussi RN12, la commune de Vert-Androuet, c'est-à-dire ma commune, a été et toujours impactée par des accidents successifs et voire souvent mortels. Donc vous comprendrez que c'est aussi pour la sécurité de mes concitoyens que je souhaiterais que ce projet aboutisse.
L'État a lancé son appel d'offres il y a maintenant un peu moins d'un an. Les candidats concessionnaires ont tous retiré leur dossier, enfin tous ceux qui étaient intéressés ont retiré leur dossier. Certains ont déposé leur dossier puisque le temps pour déposer le dossier est maintenant fort clos. Et donc nous attendons la décision de l'État sur le choix du concessionnaire, puisque là l'État est en train d'étudier chacune des offres qui ont pu être déposées. Et donc un choix qui devrait être fait en septembre 2025.
Il fallait avoir l'accord de tous et je pense unanimement au niveau déjà des conseillers municipaux, l'accord avait été donné justement pour pallier ces problèmes de sécurité avec évidemment une liste de demandes auprès des futurs concessionnaires de création, par exemple, des murs anti-bruit pour le confort des concitoyens.
Sur le projet autoroutier, chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice en participant à l'enquête publique, puisqu'il y a eu un large débat public et avec une forte participation. Alors, vous savez, dans les enquêtes publiques, il y a toujours une proportion plus importante des gens qui ne souhaitent pas un projet, qui viennent et qui participent, c'est vrai. Pour autant, nous-mêmes, Evelyne et moi, avons une conception de notre rôle d'élu qui est une conception d'élu de terrain. Et donc, lorsque l'on a fait campagne pour ces élections départementales en 2021, nous étions sur le terrain. On est allé évidemment à la rencontre des habitants de chaque commune, rencontrer aussi les conseils municipaux de chaque commune. Mais au-delà de ça, c'est là, vous voyez, on vient vous voir pour ce bilan à mi-mandat, mais en fait, on reprend comme si nous étions en campagne électorale, alors que pour nous, c'est quand même qu'en 2028, hein, il y a encore du temps pour ça, mais on reprend des réunions publiques parce que aller voir les citoyens, d'abord, objectivement, les gens sont gentils. Ils ne vous disent que ce qu'ils ont sur le cœur, sans arrière-pensée. Ils n'ont rien à gagner à vous dire si c'est blanc, si c'est noir. Pour eux, ça ne change rien. Mais leur demander leur avis, pour nous, c'est primordial. Et leur demander leur avis sur tout sujet. J'ai coutume, en début de réunion, de dire « Avec nous, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de question tabou, mais attention, il n'y a pas de réponse tabou non plus. » J'ai cette prétention de croire que je ne pratique pas la langue de bois, et ma collègue Evelyne Delaplace, pour ceux qui la connaissent, moi je peux vous attester qu'elle ne pratique pas la langue de bois. Alors quelquefois, on a des réponses qui peuvent ne pas convenir à nos concitoyens, si on n'est pas d'accord, mais tout ça se fait toujours dans le respect. Et quand on va à la rencontre de nos concitoyens, et notamment, par exemple, sur le sujet de l'autoroute, globalement, déjà, on a beaucoup plus de gens qui sont pour que de gens qui sont contre. Alors les gens qui sont contre, ils ont droit aussi à la parole. Mais ils ne doivent pas considérer que les gens qui sont pour doivent se taire. Et donc quand nous sommes dans une réunion publique, et on en a fait une il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à Garnay, où certains opposants à l'autoroute, mais qui étaient d'ailleurs tout à fait corrects, hein, sont venus participer, et lorsque la discussion est arrivée sur le projet autoroutier, ben on a donné des arguments, donc des arguments pour, puis aussi des arguments contre. Mais ce que les gens veulent aussi, c'est qu'on ne leur raconte pas d'histoire. Évidemment que personne n'aime avoir une autoroute qui passe au bout de son jardin. Il faut pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas plaisant d'avoir une autoroute qui soit proche de chez soi. Par contre, on est tous contents de rouler en sécurité. Et lorsque les gens partent en vacances, il n'y a pas un TGV qui vous emmène partout là où vous allez en vacances. Ceux qui veulent faire du tourisme vert, ben, il n'y a pas de TGV qui vous amène en plein milieu de rien. Ce n'est pas vrai. Donc il n'y a que le véhicule terrestre, comme on appelle ça, donc la voiture, qui vous emmène un peu partout. Et on est très content de pouvoir prendre l'autoroute pour partir en vacances ou pour faire un voyage en toute sécurité. On est très content de s'arrêter dans des aires de repos pour pouvoir se reposer, pour pouvoir manger ou tout simplement se reposer, faire une pause, quoi. Tout ça, c'est des éléments de sécurité. Ceux opposants à l'autoroute qui disent le problème, c'est pas le projet autoroutier, le problème, c'est de payer. Oui, c'est vrai. Ça va devenir une route payante. Mais parce qu'il va y avoir de forts investissements. C'est à peu près 1 milliard d'investissements, même peut-être un peu plus d'un milliard d'investissements. Il faut bien comprendre une chose, l'État est en faillite. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Si on considère que c'est à l'État de faire et pas à un concessionnaire autoroutier, eh bien ça veut dire qu'on ne verra rien. Ce que vient de nous dire Evelyne Delaplace, c'est l'a dit beaucoup plus pudiquement que ce que je vais vous le dire, mais c'est au minimum un accident extrêmement grave tous les ans sur sa commune, sur la Nationale 12, tous les ans. Et sur ces accidents extrêmement graves, il y a très régulièrement des décès. Il faut aussi que des personnes qui sont opposantes à l'autoroute imaginent que le rôle de l'élu, c'est pas simplement faire des réunions, même quelquefois manger ensemble, se taper sur le ventre. Non, c'est aussi aller annoncer à un père ou une mère que son fils est tué sur la route. C'est aussi aller annoncer à une femme que son mari s'est tué sur la route et qu'elle se retrouve toute seule avec sa gamine de 2 ans et un enfant dans son ventre. C'est ça aussi la réalité d'un élu. Pour l'avoir fait, et comme Evelyne Delaplace l'a malheureusement fait bien plus que moi, c'est non seulement pas agréable, mais c'est traumatisant. Et il se trouve qu'en plus, les deux élus que nous sommes des familles traumatisées par des accidents de la route. Je connais plus beaucoup aujourd'hui de familles qui n'aient pas vécu ce traumatisme. Je pense d'abord à la sécurité routière. Voilà. Avant tout. Si le conseil départemental, pour ses routes départementales, met autant d'argent sur les routes, c'est pour les moderniser et pour qu'elles soient les plus sécurisantes possibles. Alors, il y a du boulot. Et encore une fois, ça ne sera pas du claquement de doigts. Alors, on a aussi fait ce choix, et mon prédécesseur l'avait lancé, nous l'avons poursuivi et même amplifié, c'est de rénover l'ensemble des collèges d'Eure-et-Loire. Il faut que à la fin du mandat, on ait fait, alors on n'aura pas fait 100% de rénovation de nos établissements, mais qu'on ait fait au moins 80%, ce qui est bien parti. Alors c'est en moyenne, là aussi, 30 millions d'euros tous les ans qui ont été investis depuis le début du mandat pour la rénovation des collèges. Alors dans le Drouet, Camus a été terminé au tout début de ce mandat. Pendant la crise sanitaire, on a terminé cette rénovation. Nous avons terminé aussi Louis Armand il y a un an et demi maintenant.
Oui.
Pagnol est en train de se terminer, je pense qu'à la fin de l'année scolaire, je crois, c'est ça, Evelyne ?
La phase 2, c'est-à-dire
pour la phase 2.
La réfection du réfectoire.
Nicolas Robert est, lui, dans une phase un peu plus lointaine, puisque l'établissement est plus récent. C'est un des plus récents, en fait, du département d'Eure-et-Loire. Et donc, sa phase de rénovation est un peu plus tardive. Mais voilà, sur le bassin Drouet, et Togourdeau vient aussi de subir des travaux assez, assez conséquents et qui ont été livrés et inaugurés, d'ailleurs, le 7 octobre 2024. Sobriété, ça ne veut pas dire d'abord austérité. C'est de la rigueur de gestion, mais pas de la rigueur financière. Je m'explique. Lorsque la conjoncture a commencé à se retourner, on aurait pu regarder le train qui passe et attendre en se disant, bah, de toute manière, le budget 2024 est voté, on attendra le budget 25 pour rectifier les choses. Ce n'est pas ma conception, et il se trouve que ce n'est pas la conception non plus de la très grande majorité de nos collègues. J'ai proposé à l'ensemble des élus d'adopter un plan de sobriété dès le début de l'année 2024. Ça nous a permis, en fait, de pouvoir, alors certes, faire des économies sur le budget que nous avions déjà voté, mais surtout d'anticiper les dialogues budgétaires pour l'année 2025. Très vite, j'ai vu que nous ne serions pas en mesure de voter le budget en fin d'année, en décembre, comme nous avons l'habitude de le faire, et qu'il fallait qu'on repousse le vote de notre budget au mois de mars 2025. Alors, tout ça, c'était avant de savoir qu'il y aurait une dissolution, qu'il y aurait une Assemblée nationale dans l'État qu'on connaît, qu'on aurait un gouvernement Barnier qui ne tiendrait que quelques semaines, quelques mois, et qui n'irait pas jusqu'au vote du budget en temps et en heure. Voilà, tout ce que nous avons fait était de l'anticipation sans savoir à quel point l'État allait impacter négativement le budget que nous étions déjà en train de préparer avec difficulté. Et quand je dis préparer un budget avec difficulté, c'est avoir des dépenses sociales qui explosent et des recettes qui chutent. C'est pas qui baissent, c'est qui chutent. Alors, nos recettes, c'est simple, hein. Nous ne pouvons plus lever l'impôt. Depuis que le président Macron a décidé la suppression de la taxe d'habitation, ben pour compenser le manque à gagner auprès des communes, la collectivité qui percevait la taxe d'habitation, la meilleure idée qu'il ait eue, c'est de prendre la part départementale de la taxe foncière pour la donner aux communes. Très bien, les communes ont reçu, entre guillemets, ce cadeau, en compensation de la privation qu'ils avaient eue. Et les départements, bah, nous, on n'a plus eu ce taux à voter. Donc on n'avait plus cette recette-là. Par contre, on nous a dit, on va vous donner une part de TVA. Et vous inquiétez pas, la TVA, c'est dynamique, donc vous allez vous y retrouver. Alors certes, effectivement, dans les années après Covid, la TVA a été dynamique, 2 ans de suite. Sauf que la TVA, c'est fonction de la consommation. Et quand vous avez une consommation en berne, comme là, l'année 2024, un peu 2023, mais surtout 2024 et même là, le début 2025, ça peut être vite catastrophique, parce que la recette dynamique qu'on nous promettait ne l'était plus. Et en plus de ça, l'État est venu cette année, dans son budget de la France, est venu en plus raboter sur la part de TVA. Donc, ces recettes qui devaient être dynamiques ne l'étaient plus, mais en plus, on nous prend dans la poche. Ça, d'une part. L'autre part de recettes que nous avons et qui est importante mais extrêmement fluctuante, c'est les droits de mutation à titre onéreux. Ce qu'on appelle vulgairement les frais de notaire quand les gens acquièrent un bien effectivement chez le notaire. Nous avons connu de belles années d'après Covid, pendant 2 ans, avec des recettes qui étaient effectivement en hausse. D'ailleurs, je suis plutôt fourmi que cigale. Et bien nous en a pris de faire des réserves. D'ailleurs, ce qui nous avait été proposé, même avec incitation par la première ministre Elisabeth Borne, c'est de dire mettez en réserve pour des années plus compliquées. En Eure-et-Loire, on n'avait pas besoin qu'on nous le dise, mais nous l'avons fait. Vraiment, bien nous en a pris, parce que ça nous permet de continuer à investir sans aujourd'hui trop emprunter. Parce que c'est ça, en fait. C'est que pour pouvoir investir, c'est soit vous faites des excédents budgétaires sur votre fonctionnement et vous pouvez payer vos investissements, soit vous empruntez. Alors, on peut faire les deux aussi, mais il faut un juste équilibre. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui manque aux collectivités, c'est de faire assez d'excédents pour pouvoir réaliser les ambitions d'investissement. Bon, nous, on a réussi, et c'est pas que moi, et c'est pas que ma majorité. Hein. Mes prédécesseurs ont vraiment préparé le terrain. Et donc, nous avons une collectivité qui est bien gérée, qui est sainement gérée depuis longtemps. Et les plans d'investissement, que ce soit sur les routes, que ce soit sur les collèges, ou le soutien, effectivement, aux communes, comme le disait tout à l'heure Evelyne Delaplace, on est le premier partenaire des communes dans leurs investissements. Tout cela n'est permis que par une gestion extrêmement rigoureuse. Et donc oui, pour le budget 2025, nous avons dû demander des efforts à nos propres services. Alors pour vulgariser, si vous voulez, je leur ai dit dans la lettre de cadrage que j'ai envoyée au tout début de l'été, à la fin du printemps, début de l'été 2024, je leur ai dit, voilà, imaginez que dans la construction de vos propositions de budget, vous allez partir sur le budget 2024, budget de fonctionnement 2024, moins 15%. Ça, c'était la ligne à tenir. Évidemment que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'il y a des services qui peut-être ont fait plus d'économies que les 15%, parce qu'ils avaient la possibilité de proposer aux élus de faire des choix, et puis d'autres pas. Évidemment que lorsque l'on traite du RSA, avec une dépense qui nous est imposée par l'État, quand on traite d'autonomie, de handicap, eh bien, évidemment qu'il y a des dépenses qui s'imposent à nous, où nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà. Mais au global, c'est bien ça. C'est que nous avons, par exemple, contenu à quasiment zéro l'évolution de la masse salariale, malgré les augmentations à la fois de charges sociales, mais aussi de salaire, tout simplement. Donc, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Garder ce cap de la masse salariale et baisser aussi le nombre de postes, hein, c'est réfléchir au remplacement des agents quand ils s'en vont de la collectivité, que ce soit à la retraite ou qu'ils s'en vont tout court, c'est réinterroger en permanence la fiche de poste, le métier, savoir comment on peut organiser le travail. Enfin bref, c'est le travail d'une entreprise. Après, c'est pas parce que la collectivité est une entreprise publique qu'elle ne doit pas être gérée sainement. Ce plan de sobriété, il est suivi avec des indicateurs. C'est ça qui est peut-être une nouveauté pour notre collectivité et qui n'existait pas auparavant, c'était d'avoir des indicateurs de suivi pour pouvoir mieux maîtriser la dépense. Surtout, en fait, c'est gérer la dépense. Les recettes, on ne peut malheureusement pas les gérer, puisque je vous dis, on n'a plus de levier fiscal. Par contre, on peut tout à fait piloter sa dépense, même avec des dépenses obligatoires.
Malgré les restrictions budgétaires qui ont été demandées dans tous les services. On a quand même, et je remercie le président Le Dorven, d'avoir maintenu cette subvention au niveau de ce qui s'appelle le FDI, qui est donné aux communes rurales, bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire. Néanmoins, il a retenu que c'était quelque chose d'indispensable pour nous, les communes rurales, comme on l'a dit tout à l'heure. Plus de fonds, plus de FDI aux communes rurales, plus d'investissement. Une économie locale qui tomberait. Donc, merci au président Le Dorven d'avoir accepté de maintenir ces subventions pour les communes rurales.
Entre le moment où j'ai été réélu conseiller départemental et aujourd'hui, il s'est passé l'élection à la présidence du département. Donc oui, ma vie a changé. Alors en bien, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, ça va très bien. Je suis très heureux des fonctions que j'exerce et je remercie mes collègues évidemment de me faire cette confiance, parce que c'est une confiance sur l'élection, mais de me faire cette confiance. Ma vie a changé, peut-être en ce que j'ai pris aussi conscience que, en étant président, que c'est un équilibre de tous les jours. Pour être tout à fait honnête, tout à l'heure on parlait du budget, le 24 mars on a voté notre budget. C'est la première fois cette année que le budget est voté à l'unanimité. Et tout à l'heure quand on parlait de sobriété, c'est pour moi encore plus marquant d'avoir un budget voté à l'unanimité à l'heure où il était plus difficile de faire ce budget, plus difficile que les autres années. Et donc voilà, c'est peut-être ça qui me change, c'est devant la difficulté de resserrer les rangs, de co-construire un budget, d'écouter les élus. Chaque élu est légitime sur son territoire. Nous avons tous été élus, chacun sur nos territoires. Et donc c'est peut-être ça qui m'a le plus changé.
De passer maire à conseiller départemental, c'est bien là une continuité. En effet, les problèmes sont, avec des compétences différentes, les mêmes. De travailler aux côtés de Christophe Le Dorven, mon cher et tendre président, c'est un bonheur. Il a la même philosophie que moi de l'élu, c'est-à-dire d'abord les concitoyens, d'abord le territoire. Sans cela, je pense qu'on n'aurait pas été un bon couple.
C'est vrai.
RDV 95.7. RDV.